Alors, dans quelques instants, on va lire l'évangile de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 13. Mais d'abord, je voudrais vous poser une question. Comment est-ce que vous évaluez votre potentiel en tant que chrétien? Comment est-ce que vous évaluez votre potentiel en tant que chrétien? Et si vous n'êtes pas chrétien, je vous pose la question différemment. Comment évaluez-vous votre potentiel en tant qu'être humain, tout simplement? Quels sont vos meilleurs atouts dans la vie? Ou en tant que chrétien, quels sont vos meilleurs atouts dans votre relation avec Dieu et dans votre service pour Dieu? Peut-être que vous êtes doté d'une grande intelligence et que vous avez beaucoup de connaissances. Ça, c'est super comme atout, non? Ou bien peut-être que vous êtes riche et généralement en bonne santé. Ou peut-être que vous avez accumulé beaucoup d'expérience dans la vie et que vous êtes aujourd'hui quelqu'un d'aguerri, quelqu'un qui a la peau dure. Génial comme atout pour la vie, non? Ou peut-être que vous êtes quelqu'un de très discipliné, de consciencieux dans tout ce que vous faites. Peut-être encore que votre meilleur atout, c'est tout simplement votre physique. Ou peut-être que vous êtes comme moi et que vous avez toutes ces choses réunies. À l'inverse, il est possible que vous ne pensiez pas avoir beaucoup de potentiel. C'est possible ça. C'est possible que vous ne voyez pas du tout, mais alors pas du tout, quels sont vos atouts dans la vie. Et du coup, vous vous sentez petit à côté de gens qui ont une vie, semble-t-il, bien garnie, bien organisée, tout étincelant. Vous vous sentez tout petit à côté de ça. Et alors, dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à suspendre notre valeur personnelle, un peu comme une chemise sur un porte-manteau, nous la suspendons, notre valeur, voire même notre dignité, à nos capacités. La société nous encourage d'ailleurs dans ce sens. Hein. Toi, mon ami, vu tout ton potentiel, toi, tu vas faire quelque chose de ta vie. Et en tant que chrétien, on a aussi tendance, par conséquent, à suspendre la qualité de notre christianisme, voire même, peut-être dans certains cas, tout simplement notre relation à Dieu, on a peut-être tendance à la suspendre à nos capacités également, à nos capacités propres. Toi, mon ami, tu vas vraiment impacter le monde pour Dieu quand je vois tout ton potentiel. Alors en fait, cette tendance que nous avons présente de sérieux problèmes. D'abord, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de capacités, ou pour ceux qui n'ont plus beaucoup de capacités, pour diverses raisons, ben, ces gens-là, ils ont finalement qu'une seule chose à faire. Déprimés en méditant sur leur inutilité et sur le fait qu'ils ne valent pas grand-chose. Ensuite, pour ceux qui ont beaucoup de capacités, quant à eux, cette tendance va inciter leur cœur à s'éloigner de Dieu et à s'éloigner des autres. S'éloigner de Dieu parce que quand on suspend sa vie à ce qu'on est capable de faire soi-même, eh bien, on va négliger ce que Dieu a fait pour nous. Et plus on aura de capacités, moins on sera sensible à ce que Dieu a fait pour nous. Et puis s'éloigner des autres aussi, parce que cette tendance va nous pousser vers une sorte de discrimination élitiste, où les gens qui ne sont pas aussi doués, pas aussi méritants, pas aussi capables que nous, et bien ces gens-là seront laissés sur la touche, ils seront dédaignés, ils seront mis au banc de la société, voire, si nous sommes chrétiens, au banc de l'Église, et il n'y a pas de jeu de mots ici. Mais comme le dirait l'apôtre Jacques, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Comment remédier à cette tendance alors? Comment remédier à cette tendance? Eh bien, en écoutant attentivement la prédication aujourd'hui. Parce que dans le texte qu'on va lire, justement, l'auteur va attirer notre attention précisément sur ce problème, précisément sur ce problème-là. Et il y a une chose que ce texte veut nous faire comprendre, c'est que Dieu ne récompense pas nos performances. Dieu ne récompense pas nos performances. Alors lisons le texte, vous allez voir, il y a trois parties. D'abord, un contraste étonnant, ensuite une consécration radicale et enfin une comparaison inappropriée. Chapitre 19 de l'évangile selon Matthieu, verset 13, c'est là où on s'était arrêté la dernière fois, verset 13, et on lira jusqu'au verset 16 du chapitre 20. Nous lisons la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu. Alors des gens amenèrent à Jésus des petits-enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leur pareil. » Il leur imposa les mains et partit de là. Alors un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels » Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé tout cela. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, entendant cela, étaient très étonnés. Ils dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et lui dit, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e, puis vers la 9e heure, et il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là, et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. Allez, vous aussi, dans la vigne, » leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur ?» Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ?» Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. C'était la lecture de la parole de Dieu, on va prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ta parole. S'il te plaît, sanctifie-nous par ta parole qui est la vérité. Rends-nous attentifs, Seigneur, à ce que tu veux nous dire. Applique ta vérité à notre cœur et à notre vie par ton esprit. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Dieu ne récompense pas nos performances. Dieu ne récompense pas nos performances. La première chose qu'on découvre dans le texte, c'est que nos meilleures capacités ne nous rapprochent pas de Dieu. L'auteur dresse un constat étonnant. Vous avez remarqué un contraste étonnant entre les petits enfants qui sont les bienvenus dans le royaume des cieux, c'est-à-dire auprès de Dieu, dans son paradis, si vous voulez, et contraste donc entre les petits enfants qui sont les bienvenus et puis un jeune homme fringant qui a tout pour lui, mais pour qui il est par contre, d'après Jésus, très difficile, et le texte le rend évident, très difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Quel contraste, n'est-ce pas? Quel contraste étonnant, quel contraste saisissant. D'un côté, des petits-enfants dont Jésus dit que le royaume des cieux est pour leur pareil, laissez-les venir à moi, ne les en empêchez pas, le royaume des cieux est pour leur pareil, et de l'autre, immédiatement après, un jeune homme aisé, un jeune homme sincère d'ailleurs, semble-t-il, fidèle à la loi de Moïse, plein de ressources, plein de bonne volonté, bref, un gars qui a du potentiel, vous voyez? Mais d'après Jésus, il lui est plus difficile à lui d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est assez drôle comme comparaison, non? Et ce qui se passe dans le texte, les petits-enfants finissent par être reçus par Jésus, par le Fils de Dieu, ils sont reçus par lui, Jésus leur impose les mains, prie pour eux, les bénit. Mais le jeune homme riche, lui, il finit par faire demi-tour, tout triste. Qu'est-ce qu'il cherche à faire l'auteur en nous racontant ça, en nous présentant ce contraste? Il cherche à nous montrer que nos ressources propres, les choses justement qu'on perçoit comme des atouts dans la vie, ne sont pas forcément aussi utiles qu'elles en ont l'air, ces choses. L'auteur veut nous surprendre un peu ici, nous secouer un peu, nous rendre un peu perplexes, d'ailleurs comme le seront les disciples juste après au verset 25, et il veut nous faire douter de la valeur de nos capacités propres, il veut nous en faire douter tout simplement. Quand on y pense, douter de la valeur de nos capacités propres, c'est non seulement contre-intuitif, c'est-à-dire ça va à l'encontre de ce qui nous vient naturellement, mais c'est aussi contraire à la culture dans laquelle on vit, n'est-ce pas ? De nos jours, qu'est-ce qu'on dit aux gens ? On dit tout l'inverse aux gens, n'est-ce pas ? Il faut que tu crois en toi, mon ami. Il faut que tu crois en toi. Tu es quelqu'un de génial. Tu as tout ce potentiel formidable en toi. Je me souviens d'une église dont le slogan était « Dieu croit en toi ». Alors bon, c'est une chose d'avoir une bonne estime de soi, hein, bien sûr. Et c'est vrai que Dieu a fait de nous des créatures merveilleuses. Hein, c'est la Bible qui le dit. Mais en même temps, le texte nous fait comprendre ici que nos meilleures capacités ne nous rapprochent pas de Dieu. Et on est censé être un petit peu déconcerté par ce constat. Hein. C'est un peu comme quand j'ai voulu acheter les billets d'avion pour notre voyage aux États-Unis qui approche. Mardi dernier, j'ai appelé la compagnie aérienne et je leur ai dit ceci. Voilà, bonjour, j'ai 1000 euros et je veux monter dans un avion pour me rendre aux États-Unis. Mais imaginez que la personne à l'autre bout du fil me réponde. Bon, ben c'est bien que vous ayez 1000 euros, je suis très content pour vous. Par contre, ça ne va pas du tout vous permettre de vous rendre aux États-Unis. Ah bon, pourquoi ? C'est pas assez, 1000 euros pour un billet ? C'est pas que c'est pas assez, c'est plutôt que chez nous, dans notre compagnie aérienne, on a un fonctionnement assez différent de la plupart des compagnies aériennes. Et c'est pas sur la base de ce qu'ils sont capables de payer que nos clients montent dans nos avions. Alors, vous voyez ? Je serais complètement déconcerté si on m'avait dit ça au téléphone, n'est-ce pas ? Vous l'auriez été également. Moi qui ai économisé cet argent depuis des mois, maintenant cet argent ne sert à rien. Moi qui pensais qu'avec 1000 euros je pouvais aller aux États-Unis. Voilà, déconcerté. Et bien sûr, la question qui est aussitôt soulevée, si c'était ce qu'on m'avait répondu, la question qui aurait été aussitôt soulevée, c'est la suivante. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire pour voyager avec vous ? Comment on fait pour voyager avec vous ? Comment on fait pour monter dans vos avions ? Et c'est exactement comme ça que vont réagir les disciples dans le texte au verset 25. Mais alors, qui peut donc être sauvé ? Comment ça se passe alors ? Mais avant d'y venir, réfléchissons un instant à ce que nous dit le texte ici. Le vrai Dieu, le seul et unique, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, de Jésus-Christ, des apôtres, le vrai Dieu a, si j'ose dire, un fonctionnement assez différent de la plupart des autres dieux, c'est-à-dire des faux dieux qui sont en vogue autour de nous. On ne monte pas dans l'avion de Dieu, ou plutôt on n'entre pas dans son royaume sur la base de ce qu'on est capable de payer, ou sur la base de nos meilleurs atouts, ou de nos meilleures performances, ou de notre maturité spirituelle, ou de n'importe quelle autre ressource qui nous serait propre. C'est pas comme ça qu'on rentre dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça qu'on monte dans l'avion de la compagnie de Dieu. C'est pas comme ça que ça marche. Nos meilleures capacités ne nous rapprochent pas de Dieu. Malheureusement, notre façon naturelle de penser, encouragée d'ailleurs par le monde qui nous entoure, eh bien, cette façon naturelle de penser prend souvent le dessus. Combien de fois me suis-je dit moi-même, hein, en tant que pasteur, combien de fois me suis-je dit « Ah, ça serait trop bien si on avait un joueur de foot professionnel dans l'église, un Brésilien payé 200 000 euros par mois, lui il aurait une place de choix dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait en faire des choses pour le Seigneur avec un gars comme ça dans l'église ?» Par contre, les gens pauvres, malades, fragiles, nécessiteux, personne n'en veut dans l'église. Ce sont des gens à problème, vous savez, des boulets qui freinent l'œuvre de Dieu, qui nous ralentissent dans notre ministère. Ce sont en quelque sorte les chrétiens qu'on renvoie constamment à Pôle emploi parce qu'aucune église ne veut les embaucher, si j'ose la comparaison. Pareil pour les enfants d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous fatigue les enfants, n'est-ce pas ? On les supporte pendant un temps, mais on a hâte qu'ils deviennent des adultes, et donc, une fois adultes, ils seront des chrétiens à part entière, des vrais chrétiens, des vrais sujets du royaume. Vraiment ? Vraiment ? Ça vous paraît cohérent avec ce que Jésus dit dans ce passage ? Jésus, lui, il accueille les enfants, les petits-enfants, nous dit le texte. Il accueille les humbles, les nécessiteux, les pauvres en esprit, les démunis. Il les accueille dans son royaume à bras grands ouverts. Il accueille aussi les riches, mais à condition qu'ils ne placent aucun espoir dans leur propre richesse, dans leurs propres ressources. Vous voyez, il a invité le jeune homme riche à le suivre. Mais le jeune homme riche n'a pas pu. Et donc on en vient à cette question qui est celle des disciples. Puisque nos meilleures capacités ne nous rapprochent pas de Dieu, alors qui peut donc être sauvé ? si même les mecs les plus capables, les mieux placés, eh ben, tout ce qu'ils ont, ça ne les rapproche pas de Dieu, qui peut donc être sauvé? Et c'est la réponse à cette question qui peut ensuite, et qui d'ailleurs doit, remédier à la tendance que nous avons d'accorder trop d'importance à nos capacités, au point parfois de suspendre notre valeur, voire même notre dignité, à nos propres capacités. Ou en tant que chrétien, la tendance qu'on a à suspendre la qualité de notre foi, la qualité de notre relation à Dieu, à nos propres capacités, à nous qui sont capacités personnelles. Alors justement, la deuxième chose qu'on voit dans le texte, à partir du verset 25 ici, c'est que l'œuvre de Dieu pour notre salut nous enseigne à tout relativiser par rapport à Jésus. Je répète, l'œuvre de Dieu pour notre salut nous enseigne à tout relativiser par rapport à Jésus. Alors la question que posent les disciples au verset 25, elle est simple. Et la réponse de Jésus qui vient juste après, elle est simple également. J'espère que vous l'avez bien comprise. Il est impossible aux hommes de faire ce qu'il faut pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais Dieu, évidemment, à qui tout est possible, lui peut faire ce qu'il faut pour que des hommes entrent dans son royaume. Mais non seulement le texte ici, il souligne la souveraineté de Dieu dans le salut d'une personne, c'est-à-dire le fait que notre entrée dans le royaume des cieux dépend entièrement de Dieu et aucunement de nous-mêmes, dépend entièrement de Dieu, de sa décision, de ses ressources, de son œuvre. Non seulement le texte souligne cela, mais en plus le texte pointe vers le moyen que Dieu a voulu utiliser pour sauver des gens. Et ce moyen, c'est Jésus. Ce moyen, c'est Jésus. Déjà, dans son échange avec le jeune homme riche, Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, arrête de t'appuyer sur tes propres atouts. » Et verset 21, « Viens et suis-moi. » Et de même, les disciples affirment avoir tout quitté et suivi Jésus, verset 27. Et Jésus, à son tour, verset 29, parle des gens qui sont sauvés, parle des croyants qui sont dans son royaume, et il dit que ces gens ont tout quitté, je cite, « à cause de son nom, à cause du nom de Jésus ». Donc c'est Dieu qui sauve par Jésus. C'est clair? Et le texte insiste ensuite sur le fait que toutes les richesses de ce monde, même les plus incroyables, tous les atouts des hommes, toutes nos capacités propres pâlissent par comparaison avec Jésus, son œuvre et ce qui résulte de son œuvre. Le texte est en train de nous dire ici, d'une part, qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit, autrement dit, on ne peut pas être attaché à soi-même et à son monde et puis être attaché à Jésus en même temps, ce n'est pas possible. Mais d'autre part, ce que le texte nous dit, c'est que si on est attaché à Jésus, on ne devrait même pas avoir des regrets. Même pas avoir des regrets par rapport à tout le reste auquel on va renoncer, puisqu'il n'y a pas photo entre les deux, il n'y a pas photo. Alors certes, c'est dur hein, de se dire que tous vos meilleurs atouts, toutes vos richesses, toutes vos capacités propres ne pèsent rien par rapport à Jésus et à son œuvre. Mais voilà ce que dit le texte. Ce dépouillement-là, ce renoncement qui fait de vous le dernier aux yeux des hommes, peut-être le dernier à vos yeux, fait de vous en réalité et objectivement le premier, puisque Christ alors est votre richesse et la vie éternelle est alors votre héritage. Vous voyez, les derniers seront les premiers. Imaginez que vous soyez une jeune personne célibataire, c'est peut-être votre cas d'ailleurs aujourd'hui, donc vous l'imaginez facilement. Vous habitez encore chez vos parents et vous rencontrez une autre personne célibataire du sexe opposé qui est la personne de vos rêves, le conjoint idéal que vous aviez toujours espéré rencontrer. C'est votre prince charmant ou la princesse dont vous rêviez. Maintenant, est-ce que vous pensez pouvoir épouser cette personne sans que cela change la nature de votre relation avec vos parents ? Est-ce que vous allez trouver difficile de renoncer à vivre au domicile de vos parents ayant épousé cette autre personne, alors que chez vos parents, vous ne payez pas de loyer, par exemple? Vous allez trouver ça difficile? Vous allez avoir des regrets? Est-ce que vous pensez que, puisque vous aimez beaucoup vos parents, vous allez vous marier, mais seulement à moitié, un jour sur deux? Ou bien peut-être que vous allez vous marier à reculons, en traînant des pieds. Oh, j'hésite. Je pense pas. Hein. Je pense que vous allez accomplir de bon cœur cette fameuse parole de la Bible. Un homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Oh oui, vous allez faire ça, mais avec enthousiasme, n'est-ce pas? Sans aucun regret. Eh bien, de façon similaire, le texte nous incite à voir Jésus ici comme, si j'ose la comparaison, comme le conjoint idéal. En tout cas, Jésus comme la richesse qui surpasse infiniment toute autre richesse. À voir Jésus comme l'époux rêvé de l'Église, qui ne nous fait pas hésiter une seule seconde à quitter, je cite, à cause de son nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre, et à nous attacher à lui. Non pas que ces choses-là qui sont citées soient mauvaises en elles-mêmes, hein, ou qu'on doive les rejeter, pas plus que quand on se marie, on rejette ses parents. Hein. Mais ce que ça veut dire, c'est pas qu'on doit couper les ponts avec notre famille, avec nos enfants, notre conjoint, quand on devient chrétien, c'est pas qu'on doit devenir des SDF pour Dieu en décidant de plus vivre à la maison, parce qu'on décide de quitter notre maison pour Jésus. Ce que ça veut dire, c'est que ces autres choses sont insignifiantes si on les compare à Jésus et à ce qu'il a fait pour nous. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Et c'est ce que je disais il y a un instant. L'œuvre de Dieu pour notre salut nous enseigne à tout relativiser par rapport à Jésus. Et pour vraiment comprendre la valeur de l'œuvre de Dieu, et pour vraiment comprendre la préciosité de Jésus, si j'ose le terme, il faut comprendre une chose, c'est que si Jésus nous invite à le suivre, c'est pas parce que nous sommes séduisants à ses yeux. Si Dieu veut nous sauver, c'est pas parce que nous le valons bien. Au contraire, on l'a vu au premier point, nos meilleures capacités ne nous rapprochent pas d'un millimètre de Dieu. Nos meilleurs atouts ne nous rendent pas plus agréables aux yeux de Dieu. Nous sommes en réalité des gens assez détestables par nature aux yeux de Dieu parce que ce que nous sommes en réalité, vous le savez bien, je pense, j'ai pas besoin de vous en convaincre, vous avez qu'à regarder un petit peu votre cœur, vous savez bien que nous sommes par nature plutôt ingrats, plutôt égocentriques, plutôt arrogants. Nous préférerions être Dieu à la place de Dieu, c'est pas vrai? Et ça, c'est ce que la Bible appelle le péché. Mais Dieu a quand même voulu de nous, c'est ça qui est incroyable. Dieu a quand même voulu de nous à cause de son amour, un amour qui n'est pas fondé sur qui nous sommes nous, ou sur ce dont nous sommes capables, mais un amour qui est fondé sur qui lui il est, et sur ce dont lui est capable. Et par cet amour souverain, cet amour unilatéral de la part de Dieu, et bien Dieu, par cet amour-là, a envoyé son Fils, Jésus, réalisé à ses propres frais, à grand prix, réalisé notre délivrance, notre pardon, nous ouvrir la porte de son royaume au prix de son propre sang qui a coulé sur la croix. Vous voyez, c'est quand on regarde à la croix, quand on médite sur l'évangile, cette bonne nouvelle de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour nous, qu'on peut vraiment comprendre combien Jésus est précieux, combien nos richesses à côté de ça, nos meilleures richesses, nos plus grandes richesses sont finalement insignifiantes par comparaison avec qui Jésus est et ce qu'il a fait. Ce qui était impossible aux hommes, Dieu l'a fait, par Jésus. Tous nos meilleurs atouts, nos meilleures performances, nos plus grandes capacités, nos plus grandes richesses, nos plus grands exploits, nos plus grands mérites, tout ça ne change rien à cette réalité que soulignent les disciples, que souligne Jésus, à savoir qu'il est impossible aux hommes d'être sauvés. Mais tout est possible à Dieu. Les hommes ne peuvent pas se rendre agréables à Dieu par eux-mêmes, mais Dieu peut nous rendre agréables à Dieu. Et c'est ce qu'il a fait par Jésus. Et donc, tous tes atouts à toi, mon ami, toutes tes richesses propres, tu peux les relativiser, tu vois, par rapport à Jésus. Tu peux les relativiser par rapport à Jésus. Comme l'a dit Jim Elliot, missionnaire bien connu du XXe siècle, qui est mort en martyr à l'âge de 28 ans en Équateur, il a dit ceci: il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Il relativise ses plus grandes richesses par rapport à Jésus, vous voyez. Ou encore, comme l'a dit Jonathan Edwards, un grand prédicateur du XVIIIe siècle, tout ce que tu peux apporter comme contribution à ton salut, c'est le péché qui l'a rendu nécessaire. Maintenant, et surtout si tu es quelqu'un de très doué dans la vie, quelqu'un qui a beaucoup de capacités, tu dois, mon ami, tu dois éduquer ton cœur par la méditation de l'Évangile et avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Tu dois éduquer ton cœur à chérir Christ plus que tout le reste. tu dois considérer toutes tes capacités, tous tes atouts, tout ton potentiel. Tu dois considérer ces choses qui ne sont pas forcément mauvaises en elles-mêmes, mais tu dois les considérer comme des ordures, dit l'apôtre Paul, à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. Vous voyez, l'apôtre Paul aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il relativise ses plus grands atouts par rapport à Jésus. Tu dois ressembler, mon ami, à un enfant, dit Jésus. Tu dois devenir le dernier pour que Christ devienne alors ta richesse et ta gloire. Et ainsi, tu seras en réalité le premier. Et ça, mon ami, ça va changer ta vision de ta propre vie, et en particulier ta vision de ton service en tant que chrétien, comme on le voit dans la dernière partie du texte. Et je vais être un peu plus bref ici, mais la troisième et dernière chose qu'on voit dans le texte, à partir du chapitre 20 en fait, au début du chapitre 20, c'est qu'il n'y a pas d'enthousiasme pour les croyants qui exercent leur piété en s'appuyant encore sur leur propre mérite. Je répète, il n'y a pas d'enthousiasme pour les croyants qui exercent leur piété en s'appuyant encore sur leur propre mérite. Alors qu'est-ce qui se passe dans le texte? La dernière partie qu'on a lue ici, c'est cette parabole, une parabole assez longue, mais finalement assez simple. Jésus explique à travers cette parabole que tous les gens qui appartiennent à son royaume reçoivent une même récompense. Ils reçoivent tous une même récompense, quel que soit leur mérite. Alors ça paraît injuste, vous voyez? Ça paraît injuste parce que vous dites, ben, y a des gens qui sont plus méritants que d'autres, il y en a qui ont travaillé plus fort que d'autres, il y en a qui ont travaillé moins longtemps. Mais en réalité, c'est parfaitement juste, puisque cette récompense-là, qui vient à la fin de la journée, ne dépend de toute façon que de la grâce de Dieu. Rappelez-vous, Dieu est le seul à pouvoir de toute façon sauver des gens. Nos capacités n'entrent pas en compte. Et dans la parabole, d'ailleurs, le maître de la vigne, c'est lui qui a l'initiative. Il n'est pas obligé d'embaucher des gens. Il n'est pas obligé de prendre des ouvriers. Il n'est pas obligé de leur payer ce qu'il leur propose. Alors cette récompense, en réalité, n'est à aucun moment basée sur les mérites des croyants, mais elle est entièrement basée sur les mérites de quelqu'un pourtant. Elle est basée sur les mérites de Jésus-Christ. Les mérites de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a gagné cette récompense par son obéissance, par sa mort, par sa résurrection. Jésus a acquis le salut des croyants, que les croyants soient riches ou pauvres, c'est le même salut. Qu'ils soient intelligents ou bêtes, jeunes ou vieux, disciplinés ou trébuchants dans la foi, qu'ils soient expérimentés ou novices, qu'ils soient juifs ou non juifs, c'est une application de ce texte, qu'ils aient connu le Seigneur depuis leur tendre enfance ou qu'ils l'aient rencontré sur leur lit de mort, Jésus a acquis le salut des croyants. Mais la moralité de la parabole arrive à la fin, où on découvre, à la fin, un peu comme la chute de cette histoire, on découvre l'ingratitude des ouvriers de la première heure, les premiers à avoir été embauchés. Et ce que le texte souligne, me semble-t-il, ici, c'est ce genre de piété malheureuse, ce christianisme ingrat, cette attitude vexée dont ces serviteurs font preuve parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être reconnus à leur juste valeur. Et la raison pour cela, c'est qu'ils font cette comparaison inappropriée. Ils comparent leur mérite au mérite des autres. Le problème, c'est, vous voyez, qu'ils s'appuient encore sur leur mérite. Ils travaillent dans la vigne pourtant, ils travaillent pour le maître. Mais ils s'appuient encore sur leur mérite, justement, plutôt que de reconnaître, verset 15, que le maître est bon. Il est bon de les avoir embauchés. Il est bon de leur payer déjà un salaire. C'est-à-dire que, plutôt que de faire leur joie de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, ils sont encore et toujours en train de s'appuyer, au moins en partie en tout cas, sur leur propre capacité, sur leur propre mérite. Et donc, si je peux me permettre de schématiser, on peut dire, vous voyez, que objectivement, tous les croyants ont la même récompense ou le même salut calculé en fonction des mérites de Jésus-Christ. D'accord ? Objectivement, ça c'est la réalité. Ce qu'on verra dans l'éternité, au dernier jour, au jour du jugement, quand on entrera dans la gloire, c'est que ce salut qu'on a déjà aujourd'hui dépasse en fait infiniment tout ce qu'on peut même imaginer maintenant. N'empêche que même aujourd'hui, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, tous ceux dans cette salle qui sont attachés à Jésus par la foi, ont déjà objectivement un statut identique devant Dieu. Parce qu'ils sont tous, vous êtes tous, si vous avez placé votre foi en lui, vous êtes tous en Jésus. Dieu vous voit en lui. Vous êtes objectivement et tous pareils aux yeux de Dieu si vous êtes sauvés. Mais subjectivement, cette grâce de Dieu peut avoir un goût différent en fonction des gens. Ceux qui comptent encore sur leurs propres ressources, sur leurs propres efforts, sur leurs propres mérites dans leur marche chrétienne, ces gens-là vont moins apprécier cette grâce de Dieu et ce statut objectif qu'ils ont pourtant devant lui en Christ. Ils vont l'apprécier moins que ceux qui se savent entièrement démunis devant Dieu et totalement suspendus à sa grâce souveraine. Et eux, ces derniers-là, qui se savent démunis, qui sont pauvres en esprit, ceux-là, ce sont les derniers de la parabole, ceux qui sont appelés les derniers à la conclusion, ceux qui ont le moins de choses à faire valoir. Ce sont les ouvriers de la dernière heure. Et ces ouvriers de la dernière heure, ça peut être des petits-enfants parmi nous, ça peut être des personnes âgées qui n'ont plus grand-chose à faire valoir par leur force. Ce sont peut-être des gens diminués dans leur santé psychologique ou physique, ça peut être des pauvres, des nécessiteux. Ce sont dans le texte les disciples qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Ce sont tout simplement ces pauvres en esprit, quels qu'ils soient. Eux, ce sont les derniers, ceux qui savent qu'ils n'ont rien à faire valoir auprès de Dieu et qui sont entièrement, totalement suspendus à sa grâce souveraine. Ce sont en réalité les vrais premiers, dit Jésus. Les derniers aux yeux de la société, les derniers peut-être à leurs propres yeux, mais en réalité les premiers dans le royaume des cieux. Mais les faux premiers, ceux qui sont premiers à leurs yeux, premiers aux yeux de la société, qui sont en réalité les derniers dans le royaume des cieux, eux sont à l'inverse ceux qui ont beaucoup de ressources, beaucoup de mérites, et qui sont tentés de faire valoir ces choses. Que ce soit les sages et les intelligents, comme dit Jésus dans un passage précédent, que ce soit les gens expérimentés, les riches, les bien portants, les forts, les beaux, etc., etc. Eux, subjectivement, il arrive qu'ils vivent mal leur vie chrétienne. Il arrive qu'ils soient souvent tristes et insatisfaits dans leur marche chrétienne. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont plus de mal à mesurer combien le maître de la vigne est bon et combien grande est la grâce de Dieu. Je vais essayer de vous proposer une comparaison, une illustration pour comprendre ce point. Récemment, le journal Les Échos a publié un sondage très intéressant où on a demandé aux Français, à partir de quel salaire mensuel ils pensaient que quelqu'un était riche. Les réponses au sondage ont énormément varié. Entre ceux qui pensent qu'on est riche à partir de 1000 euros par mois et ceux qui pensent qu'on est riche à partir de 100 000 euros par mois. Ça fait un gros écart, on est d'accord ? Alors si vous prenez les gens qui pensent qu'on est riche à partir de 1000 euros par mois et que vous leur offriez un salaire de 50 000 euros par mois, vous pensez qu'ils seraient enthousiastes ? Hein, Faustine, tu serais enthousiaste si on te proposait ça en logistique ? Mais si vous faisiez pareil, je pense qu'elle le serait, mais si vous faisiez pareil avec ceux qui pensent qu'on est riche à partir de 100 000 euros par mois, à partir du double, ils seraient peut-être contents quand même d'avoir un boulot qui paye 50 000 euros par mois. Mais leur enthousiasme, comparé au premier, ne serait sans doute pas aussi grand. Et donc vous, quand on vous parle de la grâce de Dieu, quand on vous parle de Jésus et de son œuvre, est-ce que franchement, vos atouts, vos capacités, vos richesses pâlissent par comparaison avec les mérites de Christ ? Est-ce que vos mérites vous paraissent ridicules par rapport à ce que Dieu vous offre en Jésus ? Sinon, c'est que vous avez besoin, comme moi, de méditer sur l'Évangile encore un peu plus. Encore un peu plus. Il n'y a pas d'enthousiasme pour les croyants qui exercent leur piété en s'appuyant encore sur leur propre mérite. Alors j'ai été long et je veux conclure. Est-ce que, en tant qu'être humain, vous suspendez votre valeur ou votre dignité à vos propres capacités ? Est-ce que, en tant que chrétien, vous suspendez la qualité de votre christianisme à vos capacités ? Est-ce que, par conséquent, puisque vous trouvez que vous n'avez peut-être pas vraiment d'atouts dans la vie, eh bien, vous avez l'impression d'être inutile dans le monde et vous déprimez. Vous avez l'impression d'être inutile non seulement dans le monde, mais si vous êtes chrétien, vous avez l'impression d'être inutile dans l'Église et donc vous déprimez. Est-ce que c'est votre cas ? Ou inversement, est-ce que vous vous rendez compte ce soir, parce que vous avez beaucoup de qualités, beaucoup de compétences, est-ce que vous vous rendez compte que finalement ces choses-là détournent votre cœur de Dieu et des autres ? Vos nombreux atouts vous ont rendu quelque peu insensible à ce que Dieu a fait pour vous. Et ces atouts vous incitent aussi à dédaigner quelque peu en tout cas, les autres, ceux qui ne sont pas aussi intelligents que vous, pas aussi bien portants que vous, pas aussi beaux que vous, pas aussi riches, pas aussi expérimentés que vous, notamment aussi expérimentés dans la foi. Quel que soit votre cas, écoutez cette bonne nouvelle. Dieu ne récompense pas nos performances. Dieu ne récompense pas nos performances. C'est une bonne nouvelle en fait. C'est génial. Dieu se montre plutôt infiniment généreux envers tous ceux qui lui font confiance, depuis les plus petits aux plus grands, depuis les plus humbles aux plus riches, aux plus forts. Il se montre infiniment généreux envers les croyants, non pas sur la base de nos performances, vous voyez, mais sur la base des performances de Jésus à qui nous sommes attachés par la foi, qui est un don de Dieu. À cause de cette réalité, dans quelques instants, nous allons pouvoir nous réjouir ensemble d'écouter Timothée et Lénora professer leur foi publiquement. Alors Timothée et Lénora, ce sont encore des enfants. Mais ils vont commencer, à partir d'aujourd'hui, ils vont commencer à prendre la Sainte Cène, chaque dimanche, avec nous tous. Et il y a peut-être des gens qui s'indigneraient que des enfants si jeunes manifestent ainsi leur attachement à Jésus et communient avec le reste de l'Église. Mais à quelle hauteur ces gens-là voudraient-ils mettre la barre avant de dire « Voilà, ça c'est un vrai chrétien, ça c'est un chrétien à part entière. » Dieu qui est souverain a déjà placé ses enfants dans son alliance, avant même qu'ils soient nés. Et ils ont reçu le signe de cette appartenance lorsqu'ils ont été baptisés. Et maintenant, par leur participation à la Sainte Cène, ils veulent professer leur foi volontairement avec le reste de l'Église, selon les instructions de l'apôtre Paul, notamment dans 1 Corinthiens 11. Est-ce que Lénora et Timothée ont des connaissances théologiques extraordinaires? Est-ce qu'ils ont une grande maturité spirituelle? Est-ce qu'ils sont impressionnants aux yeux du monde? Alors Timothée, il a beau dire oui, la réalité c'est que je suis désolé de te l'apprendre, mais pas vraiment. Mais moi non plus, donc rassurez-vous. Mais vous voyez, ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Ils sont attachés à Jésus. Et le royaume des cieux est pour leur pareil. Amen. On va prier. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Des fois, il y a des passages compliqués, compliqués à comprendre. Merci parce que tu viens à notre aide par ton esprit pour les comprendre justement, ces passages. Et maintenant, nous te prions de nous aider à mettre en pratique ce que nous avons appris, si cela vient de toi. Et cela pour ta gloire. Amen.